Chers amis, nous allons terminer aujourd'hui notre série sur l'espérance en évoquant la dernière période de la vie de Takashi Nagai. Nous avions évoqué son mariage avec Midori, une descendante des chrétiens persécutés et cachés du Japon, sa leucémie due à son travail de radiologue qui ne lui laisse plus que 2 à 3 ans de vie. Nous avions vu aussi l'épreuve terrible de la bombe atomique du 9 août 1945 qui a dévasté Nagasaki et particulièrement le quartier chrétien d'Urakami, où la famille de Takashi vivait. Ce jour-là, Takashi perd tout, sa maison, la cathédrale bien-aimée, ses recherches en radiologie, son travail, ses amis. Mais surtout, il perd sa femme dont il retrouve les restes carbonisés dans les décombres et les cendres de sa maison. Pour lui, c'est comme si le monde s'écroulait. Le désespoir semble l'anéantir. La dévastation n'est pas seulement dans Nagasaki, mais dans son cœur. Cependant, au fond de l'abîme, au cœur de ce désert atomique, après avoir prié son chapelet, il entend cette parole du Christ. « La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Il comprend alors que tout ce qui devait mourir est mort. Et qu'il lui faut désormais rechercher ce qui ne peut mourir. Autrement dit, refonder sa vie sur l'unique rocher qui demeure toujours, le Christ, sa parole, la vie dans sa parole, la vie avec lui, pour la gloire de Dieu. Il décide alors, après 2 mois, de revenir habiter à Urakami, le quartier chrétien dévasté par la bombe, avec son fils Makoto, 10 ans, et sa petite-fille Kayano, 4 ans. Tous les deux sauvés parce qu'ils avaient été envoyés à 6 km de Nagasaki chez la grand-mère, juste avant le 9 août. Takashi se construit alors une misérable et minuscule cabane avec les restes de sa maison. Et il commence là une nouvelle vie, invitant les survivants du quartier à reconstruire Urakami. Il faut bien voir que 8000 catholiques sont morts à Urakami du fait de la bombe. Mais bon nombre étaient aussi absents le 9 août, parce qu'ils étaient dans l'armée ou dans les colonies japonaises. Or, beaucoup entendent l'appel de Takashi à reconstruire Urakami, et donc des cabanes s'érigent, ça et là. L'évêque annonce une messe de requiem en plein air, puisqu'il n'y a plus de cathédrale, pour tous les morts, et il demande à Takashi, en tant que représentant des laïcs chrétiens, de prendre la parole. Takashi se demande bien ce qu'il va pouvoir dire. En fait, il est frappé par la remarque de certains qui pensent que la bombe a été un châtiment, une punition de Dieu. Or, réfléchissant à tous ces événements, cherchant le sens de tout cela, il en arrive finalement à une conclusion très différente. Et cela à partir de 2 événements. Le soir du 9 août, vers minuit, alors que tout était dévasté et en feu, des infirmières avaient entendu des femmes chanter des hymnes latins. Or, le lendemain, repassant au même endroit, elles avaient découvert les corps presque nus de 27 religieuses du couvent Josei. L'explosion avait détruit leur couvent, tué un certain nombre de religieuses sur le coup et horriblement brûlé les 27 autres. Rassemblées près d'un petit ruisseau, elles avaient de toute évidence souffert le martyre avant de mourir. Mais elles étaient mortes en chantant. L'autre chose qui lui revenait en mémoire, c'était que la religieuse directrice d'une école de filles, où Midori, son épouse, avait travaillé, avait appris à ses élèves un chant qu'elle chantait tous les jours depuis le début de la guerre, pour demander la protection de Dieu. Et ce chant commençait ainsi. « Marie, notre mère, je m'offre à toi. » Or, beaucoup d'entre elles furent tuées presque instantanément le 9 août. Mais d'autres, brûlés et blessés, dont beaucoup allaient mourir, s'encourageaient mutuellement en chantant le chant appris « Marie, je m'offre à toi ». Et alors Takashi repense au livre de l'Apocalypse. L'autel brisé de la cathédrale lui apparaît comme l'agneau immolé. Mais l'agneau est toujours suivi d'un cœur de vierge qui chante. Et alors soudain il a cette intuition. Les 27 religieuses du couvent de Josei et les jeunes filles de l'école sont mortes en chantant le nouvel hymne, le chant nouveau qu'elles ont appris de l'agneau. C'est le chant de la rédemption opérée par la souffrance et la mort. L'Holocauste de Nagasaki lui apparaît alors comme une participation à l'Holocauste du Calvaire. Et alors il écrit un poème, à la manière de ces petits poèmes japonais qui ne font que quelques lignes. Vierge comme le lys blanc, consumée dans les flammes, en sacrifice d'Holocauste, elle chantait. Le 23 novembre 1945, Takashi sait donc ce qu'il va dire au peuple en proie à la désolation et rassemblé au milieu des ruines pour cette messe de requiem. Et voici son discours. Le 9 août 1945, à 10h30 du matin, une réunion du Conseil suprême de la guerre se tint dans les quartiers de l'empereur pour décider si le Japon devait capituler ou continuer la guerre. À ce moment-là, le monde était à la croisée des chemins. On était en train de prendre une décision qui soit aboutirait à une nouvelle paix durable, soit projetterait l'humanité dans un carnage et un bain de sang encore plus cruel. Et juste au même moment, à 11h02 du matin, une bombe atomique a explosé au-dessus de notre quartier du Rakami, à Nagasaki. En un instant, 8000 chrétiens furent rappelés à Dieu, tandis qu'en quelques heures, des flammes féroces réduisirent en cendres ce territoire sacré. La même nuit, un incendie se déclara dans la cathédrale qui fut réduite en cendres. Et exactement au même moment, c'est-à-dire au moment où la cathédrale a pris feu, dans le palais impérial, Sa Majesté l'Empereur fit connaître sa décision sacrée de mettre un terme à la guerre. Ça, c'était donc le 9 août. Et le 15 août, le décret impérial qui mettait fin au combat fut officiellement promulgué et le monde entier accueillit un jour de paix. Or, ce jour était aussi la grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Or, la cathédrale d'Urakami lui était dédiée. Et nous devons nous demander si cette convergence d'événements, la fin de la guerre et la célébration de la fête de l'Assomption, est une pure coïncidence ou s'il s'agit là d'un mystérieux effet de la providence divine. J'ai entendu que la seconde bombe atomique était destinée à l'origine à une autre ville, mais comme le ciel était couvert, il fut impossible aux pilotes américains de viser leur cible. Par conséquent, ils changèrent leur plan et décidèrent de lâcher la bombe sur la cible secondaire, Nagasaki. Cependant, il y eut un autre contretemps, et la bombe, qui était destinée aux usines de munitions, explosa finalement au-dessus de la cathédrale. Ce ne sont donc pas les pilotes américains qui ont visé Urakami. C'est la providence divine qui a amené la bombe à cette destination. N'y a-t-il donc pas un profond rapport entre la destruction d'Urakami et la fin de la guerre ? Demande Takashi. Urakami, le seul lieu saint du Japon. Pourquoi l'appeler un lieu saint ? Parce qu'en fait, les 26 martyrs du Japon au XVIe siècle ont été martyrisés là. Et parce que la grande cathédrale d'Urakami avait été construite par les chrétiens de ce quartier pour rendre hommage aux martyrs. Et parce que ce quartier abritait tant de chrétiens qui avaient connu la persécution pendant des années. Urakami, donc le seul lieu saint du Japon, selon Takashi, n'a-t-il pas été choisi comme victime, tel un agneau innocent, pour être immolé et brûlé sur l'autel du sacrifice, pour expier les péchés commis par l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale? Et Takashi développe son intuition. L'humanité, dit-il, a hérité du péché d'Adam qui a mangé le fruit de l'arbre défendu. Nous avons hérité du péché de Caïn qui a tué son jeune frère. Nous avons oublié que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons cru aux idoles. Nous avons désobéi aux lois de l'amour. Nous nous sommes allègrement haïs les uns les autres. Nous nous sommes allègrement tués les uns les autres. Et maintenant, finalement, nous avons mis fin à cette horrible guerre. Mais pour restaurer la paix dans le monde, il n'était pas suffisant de se repentir. Nous devions obtenir le pardon de Dieu grâce à l'offrande d'un grand sacrifice. C'est uniquement quand Urakami a été détruit que Dieu a accepté le sacrifice. En entendant le cri de l'humanité, il a inspiré à l'empereur de promulguer le décret sacré mettant fin à la guerre. Notre Église, dura Camille, a gardé la foi pendant les 400 ans de persécution religieuse, quand la religion était proscrite et que le sang des martyrs coulait librement. Pendant la guerre, cette Église n'a jamais cessé de prier nuit et jour pour une paix durable. N'était-elle donc pas l'agneau sans tache qui devait être offert sur l'autel de Dieu? Grâce au sacrifice de cet agneau, plusieurs millions de personnes qui auraient dû être victimes des ravages de la guerre ont été sauvées. Comme cet holocauste du 9 août fut noble et splendide, tandis que les flammes jaillissaient de la cathédrale, chassant la noirceur de la guerre et amenant la lumière de la paix. Comme sont heureux les agneaux purs qui se reposent désormais sur la poitrine de Dieu. Comparés à eux, comme est misérable notre sort à nous les survivants. Le Japon est vaincu. Urakami est totalement détruit. Devant nos yeux s'étend une décharge de cendres et de débris. Nous n'avons ni maison, ni nourriture, ni vêtements. Nos champs sont dévastés. Nous, les Japonais, devons maintenant marcher le long d'un chemin plein de douleurs et de souffrances. Mais ce chemin douloureux n'est-il pas aussi un chemin d'espoir qui nous donne à nous une occasion d'expier nos péchés? Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous devons faire ce chemin d'expiation avec foi et sincérité. Et alors que nous marchons en ayant faim et soif, ridiculisés, sanctionnés, flagellés, transpirants et couverts de sang, souvenons-nous de comment Jésus a porté sa croix au calvaire. Il nous donnera du courage. Et puis Takashi reprend les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Remercions, dit-il encore, pour le fait qu'Urakami ait été choisi pour le sacrifice. Remercions car à travers ce sacrifice, la paix a été donnée au monde et la liberté de religion au Japon. Takashi a terminé son message et va se rasseoir. Je pense que les fidèles d'Urakami ne s'attendaient pas à une telle prédication. D'ailleurs, des fidèles, durant son discours, se sont offusqués d'entendre une telle chose. Certains se sont même levés pour protester. Ils ne pouvaient admettre qu'on cherche à spiritualiser de telles atrocités. Mais Takashi avait traversé avec eux la vallée de la mort. Lui aussi avait tout perdu dans cette horreur. Il pouvait donc dire et donner le sens qu'il voyait à tout cela. En fait, sa façon de voir la providence de Dieu à l'œuvre, même dans cette horreur et cette désolation du 9 août, a profondément touché ses auditeurs, et bien plus largement tous ceux qui ensuite, au Japon ou ailleurs, ont lu ses livres et ont découvert ce qu'il avait dit ce jour-là à la messe de Requiem, même les non-chrétiens. D'une certaine manière, ce jour-là, Takashi a pacifié les cœurs, car il n'était pas dans l'amertume, il n'était pas dans le désir de vengeance, dans l'accusation, mais dans une humble acceptation de tout. Il leur a donné une vision de foi concernant tous ces événements, une vision surnaturelle des choses, puisée dans la prière et l'intimité avec Dieu. Et il a ainsi réouvert les portes de l'espérance pour des multitudes. Et cette espérance, eh bien, elle devait se concrétiser par la reconstruction du Rakami. Quelques jours après ce discours, un homme vient voir Takashi dans sa cabane et lui dit qu'il a perdu toute sa famille dans la catastrophe et qu'il veut partir loin de là pour ne plus y penser. Mais Takashi l'exhorte à rester, à se construire lui aussi une cabane pour redonner vie à ce désert atomique. Et l'homme restera. Un autre jour, le nouveau prêtre convoque une réunion générale. Takashi prend la parole et dit « En tant que citoyen, d'un Urakami chrétien, affirmons nos priorités en construisant d'abord l'Église. Commençons par une église de bois tant que nous ne pouvons pas reconstruire la cathédrale. Et ensuite seulement, nous penserons à nous construire nos maisons. Nous devons tous oublier notre malheur personnel et travailler jusqu'à ce que notre ville et notre pays se relèvent. » La motion est votée et tous ceux qui en avaient la force se sont mis au travail. L'église a donc été le premier bâtiment reconstruit dans le quartier dévasté, et cela a été comme une proclamation de foi et d'espérance. Beaucoup auraient pu perdre la foi dans cet enfer, mais l'exemple de Takashi a beaucoup contribué, au contraire, à raffermir la foi en la présence aimante de Dieu, au cœur même de l'horreur. Dieu est toujours présent auprès de ses enfants qui souffrent, comme il était présent mystérieusement au Golgotha. Lui seul a le pouvoir de tirer un bien du mal le plus absolu. Ces temps qui ont suivi la dévastation ont donc été le temps des cabanes, avant d'être le temps de reconstruction de petites maisons précaires. Un jour, voyant l'extrême précarité de la famille de Takashi, des amis se proposent de lui construire une cabane améliorée. Alors il accepte, mais il demande qu'on lui fasse une minuscule cabane à côté de celle de sa famille qui est elle aussi agrandie et consolidée. On lui construit donc une cabane de 2 tatamis, l'équivalent de 2 matelas posés par terre. La moitié de cette pièce est pour lui et l'autre moitié permet aux personnes de plus en plus nombreuses qui viennent le voir de s'asseoir à côté de lui. Un vieux professeur vient visiter Takashi dans sa cabane, cabane qu'il avait baptisée Nyokodo, qui signifie « lieu sanctuaire où l'on sème ». Le professeur, devant le dénuement de cette cabane, écrit alors sur un parchemin « ne rien avoir et pourtant tout avoir ». Ce qui ravit Takashi, qui affiche aussitôt le parchemin sur le mur de sa très modeste habitation. Dès 1946, suite à la dégradation de sa santé, il reste alité en permanence. Et pour gagner sa vie et nourrir ses enfants, il commence à écrire et devient ainsi un témoin privilégié de ce qui s'est vécu à Nagasaki et un témoin de la paix. Son premier livre a pour titre « Les cloches de Nagasaki ». Il y raconte un événement qui a eu un grand impact pour les gens d'Urakami. Des jeunes hommes, avec Takashi, quand il était encore assez en santé, s'étaient mis à fouiller les décombres de la cathédrale la veille de Noël. Et ils avaient eu la surprise de retrouver une des 2 cloches intactes, et ils l'avaient installée en secret sur un support, et alors que les gens s'apprêtaient à fêter dans la tristesse et la désolation leur premier Noël après la bombe, soudain, ils avaient entendu retentir la cloche pour la prière de l'Angélus. Cela avait été comme un miracle pour tous les gens d'Urakami. Le son montait d'autant plus clair et sonore qu'il n'y avait plus aucun grand bâtiment pour arrêter le son de la cloche. Il leur semblait soudain que la cathédrale renaissait de ses cendres pour annoncer la naissance du Christ. Ils avaient écouté remplis de stupeur et d'émerveillement comme les bergers lorsque du ciel sombre leur était parvenu le chant des anges annonciateurs de la venue du Christ. C'est ce soir-là que Takashi avait trouvé le titre du livre qu'il était en train d'écrire, « Les cloches de Nagasaki ». Et son message allait être le suivant. Même une bombe atomique ne peut étouffer les cloches de Dieu. Le Christ a vaincu la mort, et partout la vie avec lui peut renaître. Jésus est donc présent là aussi, dans ce désert atomique avec eux. Takashi, sur son lit de souffrance, est porté par une foi très profonde, par la force de la prière aussi, car il prie son chapelet tous les jours avec grande dévotion, devant une grande statue de la Vierge envoyée par la femme du président argentin, qui avait eu connaissance de son témoignage. Takashi reçoit désormais chacun avec l'amour du Christ. Ses livres touchent profondément les gens. Un cardinal envoyé du pape vient le voir et lui donne un chapelet de la part du Saint-Père. L'empereur lui-même tient à lui rendre visite. Takashi est même déclaré héros de la nation. C'est le défilé ininterrompu auprès de ce pauvre de cœur, cet homme pacifié, ce nouveau Gandhi, comme on a pu l'appeler au Japon, tout abandonné à la providence divine et en même temps acharné de travail, puisqu'il écrit jusqu'à la limite de ses forces, couché sur le dos avec un système d'attache des feuilles au-dessus de lui. C'est sa contribution au relèvement de l'espérance dans le cœur des Japonais. D'ailleurs, il prêche par sa parole, par ses livres, mais aussi par ses actes. Avec l'argent qu'il a reçu de son premier livre, il achète 1000 cerisiers afin qu'ils soient plantés dans Urakami, car il se dit « quand ils fleuriront, tout redeviendra beau, et les cendres seront ainsi recouvertes par la beauté des fleurs. Ce sera le signe du printemps qui revient après l'hiver atomique. » c'est comme une parabole. Nombre de ces cerisiers sont encore à Urakami aujourd'hui. Ils sont nés de la vision d'espérance de Takeshi. Celui-ci disait « Ceux qui n'ont pas une vision de l'avenir périssent. » Et cette vision, il la recevait dans la prière. Il pensait que la souffrance, si elle est acceptée avec grâce, affine le cœur humain, tandis que l'expérience des ténèbres aiguise la vision de l'esprit. « Notre vie a une grande valeur, écrivait-il, si nous acceptons de bonne grâce la situation dans laquelle la Providence nous place, et si nous continuons à vivre avec amour. Si chacun de nous s'accepte comme il est, un jour viendra où nous verrons que les plans de Dieu se seront réalisés, précisément à travers notre faiblesse. » Et il rajoutait, « À moins d'avoir souffert et pleuré, on ne comprend pas vraiment ce qu'est la compassion. On ne sait pas réconforter ceux qui souffrent. Si on n'a pas pleuré, on ne sait pas sécher les yeux des autres. Tant qu'on n'a pas marché dans l'obscurité, on ne peut aider ceux qui errent à travers le chemin. Tant qu'on n'a pas regardé la mort en face, on ne peut aider personne à ressusciter et à goûter à nouveau la joie d'être en vie. » Takeshi a traversé la mort d'une certaine façon. Et non seulement il l'a traversée, mais cloué sur son lit de douleur, car il souffrait énormément, il manifeste en même temps la vie de la résurrection, la nouvelle vie en Christ. Takeshi répond aussi aux nombreuses lettres qu'il reçoit. Il répond notamment à des lépreux, en les exhortant à faire de leur souffrance un beau sacrifice d'amour. Il leur écrit « Mon corps aussi se désagrège. Déjà, il n'existe presque plus. Mais la souffrance physique est l'occasion de recueillir un trésor pour le ciel. Quelques années d'efforts à porter nos fardeaux. Les fardeaux font partie de la vie de tout homme. Puis, nous nous lèverons renouvelés et entrerons dans une joie sans tache. » Il note aussi « Je pourrais être guéri miraculeusement de la leucémie, et ce serait une bonne chose. Si je ne guéris pas, c'est aussi une bonne chose, qui ne me tracassera pas le moins du monde. Tout ce qui m'importe, ce sont les plans de Dieu sur moi. La seule vie qui m'intéresse est celle qui est vécue pour lui, un jour à la fois, avec le soutien de la prière. » Et s'adressant à ses enfants, il leur dit « Mes petits-enfants, si vous prenez la décision capitale de vivre avec humilité et amour, votre vie sera féconde et vous serez heureux. » Fin 1951, sa santé se détériore encore et il pense le moment venu de composer, comme le faisaient les samouraïs, son chant d'adieu, chant très court. « Au revoir, ma pauvre chère. Je dois maintenant me rendre au-delà, comme le parfum doit quitter la rose. » Il trouve cependant encore la force d'écrire un petit livre sur les martyrs japonais, non pas ceux du XVIe et XVIIe siècle, mais ceux du XIXe siècle. Et il termine son livre en rappelant la citation connue de Tertullien, cet écrivain chrétien du IIe siècle. « Le sang des martyrs est semence de chrétiens. » Ce sont là les derniers mots que Takeshi écrit. Dans la nuit du 29 avril, la douleur devient insupportable. Une hémorragie interne se déclare. Puis dans la journée qui suit, après avoir reçu l'Eucharistie des mains du prêtre, il est emmené à l'hôpital sur un brancard, mais tient à passer devant les restes de la cathédrale pour une dernière prière. À l'hôpital, après une piqûre, il va un peu mieux, de sorte que les membres de sa famille le laissent, sauf son fils et une infirmière qui reste à côté de lui. Mais dans la nuit, il est pris de convulsions et entre en agonie, en répétant « Jésus, Marie, Joseph, ah, je souffre tant, priez !» Et il demande à son fils « Makoto, la croix !» Celui-ci se précipite pour lui mettre la croix dans les mains. Et c'est à peine s'il comprend ce que son père dit dans un murmure « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. » Takeshi vient de partir rejoindre Midori, son épouse. Nous sommes le 1er mai, le début du mois de Marie. Lors de ses funérailles, le 3 mai, il y a 20 000 personnes et le maire de la ville de Nagasaki lit à la fin de la célébration 300 messages de condoléances en commençant par celui du ministre du Japon. Juste à la fin de cette longue litanie de condoléances, la cloche sonne. C'est justement l'heure de la prière de l'Angélus. Comme si Marie tenait aussi à célébrer les louanges de son petit serviteur. Takashi est enterré à côté de sa femme Midori dans un petit jardin préparé et entretenu par la ville. Alors que l'épitaphe sur la tombe de Midori était « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Takashi a choisi comme épitaphe pour sa tombe la parole de Jésus au chapitre 17, verset 11 de Saint Luc. « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Voilà donc un homme qui a vécu des choses terribles, qui a souffert immensément dans son cœur et dans son corps, et qui pourtant rayonnait d'espérance. Il a puisé cette espérance dans la prière, et c'est la prière qui lui donnait un regard surnaturel sur toute chose. C'est comme s'il voyait les choses du point de vue de Dieu. Son cœur pacifié et transfiguré voyait l'invisible, la splendeur de Dieu, par-delà le mal. Il voyait avec une grande clarté que tout, en nous et autour de nous, est don de Dieu, grâce de Dieu. La vie, mais aussi la mort. La santé, mais aussi la maladie. Les joies, les peines. Tout a vocation à accueillir la lumière de Dieu et à y entrer. Que son témoignage vienne fortifier en nous cette belle vertu de l'espérance et nous rappeler sans cesse que le Seigneur seul est notre véritable espérance.
Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route j'ai confiance en toi.
Pour continuer ce temps d'enseignement, nous vous proposons d'écouter Michel Coquillon, syndicaliste chrétien. Il nous parle du wokisme.
Bonjour. Le wokisme a souvent été évoqué dans les élections présidentielles américaines et il l'est de plus en plus en France, dans le monde politique. Certains élus s'en revendiquent même. Et il l'est aussi dans l'enseignement concernant, par exemple, l'éducation sexuelle à l'école. C'est donc un sujet d'actualité grave et toxique pour notre époque. L'objectif de cette émission est double, voir de quoi on parle lorsqu'on évoque le wokisme, d'où il vient, mais surtout en quoi cette religion, qui étend ses ravages dans le monde occidental, est perverse et nocive pour notre époque. Il ne s'agit donc pas simplement d'une nouvelle idéologie, comme on l'a vu par exemple avec le marxisme, mais bien d'une nouvelle religion qui échappe à la raison qu'elle méprise, mais encore une fois une religion toxique. Par contre, si nous devons être conscients de ses ravages, nous ne devons pas être paralysés par la peur car cette religion porte dans ses absurdités les causes de sa destruction future. Mais nous savons également que le Christ l'a vaincu aussi par sa mort. L'origine de son nom est déjà significative. Le terme « walk » provient du verbe anglais « walk », « to wake, walk, walk » pour les anglicistes, qui signifie « se réveiller, s'éveiller ». Le wokisme prétend donc décrire un état d'éveil de ses adeptes. Le terme « éveil » parlant plus aux protestants d'ailleurs qu'aux catholiques, puisque la conversion pour les protestants est un éveil. Ce mouvement est né dans des universités américaines, en particulier en Californie. Est-ce d'ailleurs un hasard si la ville de San Francisco est dans le même temps pourrie par l'explosion de la consommation de la drogue ? Ce mouvement n'a pas été pris au sérieux au départ, ne serait-ce que du fait de son aspect un peu fou, son irrationalité affligeante et son intolérance totalitaire dans un climat de dérive libertaire. Mais le wokisme touchait à l'époque des étudiants qui font maintenant partie de l'élite américaine avec de grosses responsabilités. Il propage cette dérive hors du cercle universitaire avec parfois de très gros moyens apportés par d'importantes multinationales. Le soutien d'autres mouvements comme les LGBT, le planning familial, etc., souvent financés par l'État ou les collectivités locales, multiplie sa puissance. Ce mouvement est né dans un contexte de lutte contre le racisme. Ce n'est pas un hasard si le terme « wokisme » a été inventé par les militants noirs américains du Black Lives Matter, un mouvement qui s'est illustré dans la lutte contre le racisme après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas non plus un hasard si on voit dans le même temps s'exprimer largement un suprématisme blanc, aux États-Unis au moins, qui veut maintenir ou assurer la domination de la race blanche sur les autres races aux États-Unis et dans le monde. Cette philosophie est donc née dans des mouvements sociaux de défense des droits civiques, avant d'être amplifiée par les réseaux sociaux et les médias, et d'être prise dans les universités. La mort de manifestants noirs, particulièrement celle de George Floyd, suite à une interpellation policière très violente dont les images ont fait le tour du monde, cela a agi comme de l'huile sur le feu et s'est traduit par des manifestations insurrectionnelles, mais aussi de nombreuses conversions wokistes. La condamnation de la police qui en a résulté, et qui peut d'ailleurs nous rappeler certains événements en France, a conduit certaines municipalités américaines à réduire fortement le financement de la police, puisqu'elle serait raciste et qu'elle tue. Cela a eu pour résultat une explosion de la délinquance et des meurtres. C'est à l'occasion de ces manifestations que sont nés des rituels wokistes, comme se mettre à genoux, se laver les pieds, imitation d'ailleurs de rituels religieux, sans référence à un dieu. Par contre, l'émotion et l'enthousiasme que suscitent ces symboles servent le wokisme, et ces gestes rituels sont d'ailleurs pratiqués en France, même dans le monde politique, lors de manifestations. On le constate malheureusement, un mal naît ou se nourrit très souvent d'un autre mal. C'est face au racisme anti-noir que s'est développé un racisme anti-blanc chez ceux, eux-mêmes souvent blancs d'ailleurs, qui sont censés avoir pris conscience, s'être éveillés et qui ont rejoint les woke et donc l'élite réveillée. La condamnation du colonialisme et de l'esclavagisme qui l'accompagne représente une préoccupation centrale du wokisme. Ce que les woke nomment le privilège blanc représente le péché originel, mais un péché qui ne peut être pardonné. Les blancs se trouvent donc irrémédiablement dans le camp des esclavagistes et des colonialistes, avec l'obligation de se reconnaître coupable. Les woke, estimant faire partie d'une élite éclairée, promeuvent ce qui peut être perçu comme un sentiment de supériorité par rapport à ceux qui se considèrent comme pas coupables. À ce stade, trois remarques par rapport aux valeurs chrétiennes. L'appel au pardon est central dans le message du Christ, ce que refuse le wokisme. Le Christ ne serait pas venu pour sauver les blancs, alors qu'il allait, à l'époque, en premier au-devant des pécheurs, des lépreux, des prostituées. Les blancs verraient leur dignité définitivement entachée, ce qui est contraire au sens même de la création, qui veut que toute personne humaine est aimée de Dieu et bénéficie de la rédemption par la mort du Christ. Il n'y a pas de paix possible sans pardon, nous répétait Saint Jean-Paul II. Pas de paix possible avec les blancs qui se voient ainsi condamnés à être haïs par les autres races, les victimes. Cela appelle une autre remarque. Si la connaissance de l'histoire n'est pas un point fort de l'instruction aux États-Unis, les Français peuvent-ils ignorer, par exemple, l'invasion de la France par les Sarrasins et la bataille de Poitiers? Cette tentative de colonisation de la France après l'Espagne par le monde arabe a-t-elle définitivement entaché ce monde? Celui-ci a été à l'origine de beaucoup plus d'esclavage de Noirs africains que le monde occidental. Rappelons d'ailleurs que l'islam ne condamne que l'esclavage des musulmans. Et actuellement, l'esclavage qui sévit dans de nombreux pays en Afrique ou en Asie, sous différentes formes, est-il plus acceptable que celui de la traite des Noirs ? Le seul que condamne vraiment le wokisme. Bien des chrétiens, mais aussi des musulmans, vivent en ce moment, d'ailleurs, cette épreuve de l'esclavage. Elle est loin d'être le seul fait de blanc, donc, ce qui sape un fondement majeur du wokisme. La vision d'un monde où il y a les mauvais d'un côté, les blancs, et les bons de l'autre, ceux qui ne sont pas blancs, les victimes d'un côté, les dominants de l'autre, est d'un simplisme effrayant. Le wokisme s'est ainsi construit comme une croyance, comme une religion. D'une lutte contre le racisme anti-noir, au départ, il a évolué vers le rejet des vérités historiques, scientifiques, philosophiques ou religieuses. La science étant née en Occident, elle serait toujours faite d'un certain point de vue, celui des dominants, les blancs occidentaux. Il n'existerait donc pas de connaissances objectives, et la science est donc un outil de domination des blancs. Il faut désormais qu'elle soit remplacée par des savoirs indigènes, par le savoir des victimes, par le savoir de chacun. Est vrai ce que je crois ou ce que croyaient mes ancêtres? Par contre, le wokisme se sert de ce qu'il nomme la science pour justifier ses idées, même les plus absurdes, quitte à ignorer toute vérité qui ne va pas dans le sens de ce qu'il veut ou à créer des preuves scientifiques bidons. Certains chercheurs parlent même de blanchiment des idées. On affirme une contre-vérité, même absurde, et on la fait valider, soi-disant scientifiquement, par des scientifiques ou pseudo-scientifiques, des études d'opinion orientées, mais aussi par la répétition de ces contre-vérités dans les médias, qui ne prennent pas la peine de vérifier les arguments. Et pour eux, puisque tout le monde le pense et que ça va dans le sens de ce que veulent entendre les auditeurs, c'est que c'est la vérité. C'est ainsi que beaucoup de journalistes, de politiques, voire d'universitaires présentent comme vérités scientifiques des contre-vérités parfois absurdes. Cela met en évidence trois réalités graves. Les adeptes croient que ces affirmations sont indiscutables et que ceux qui les discutent sont des incompétents de mauvaise foi. Ensuite, bien des scientifiques, compte tenu des critiques, attaques auxquelles dans les médias ou dans leur milieu universitaire ils s'exposent, préfèrent se taire. Cette crainte s'étend largement au monde politique et médiatique. Bien des responsables politiques semblent très silencieux sur la dérive de l'éducation sexuelle à l'école, par exemple. Le médiatiquement correct, ou le wokisme correct, pourrais-je dire, pèse très lourd. Pour les woke, la science qu'ils soutiennent ne cherche pas la vérité. Elle sert à prouver les idées, je serais tenté de dire même les fantasmes, des adeptes engagés. Autre aspect religieux, pour le wokisme, le monde est composé de purs et d'impurs, les purs les wokistes, les impurs les autres. Ils sont condamnés comme racistes, homophobes, transphobes, etc. On invente de nouveaux délits, de nouvelles phobies, bien sûr punissables, pour ostraciser ceux qui ne sont pas dans le langage imposé. Or, dans notre société, ces accusations valent condamnation avec tous les risques que cela comporte. Donc, nous avons affaire à une religion, mais à une religion qui veut détruire tout ce qui ne va pas dans son sens. Elle n'admet pas le vrai débat avec les adversaires qui sont le mal. Pire encore, la religion woke promeut la cancel culture, c'est-à-dire l'effacement, la destruction de tout ce qui ne va pas dans le sens de la culture woke. Cette approche la conduit à une intolérance virulente, à la censure de tout ce qui n'est pas woke et à l'exclusion des malpensants. C'est ainsi que se créent des tribunaux, parfois informels, mais redoutables de la pensée correcte. Leur sentence, elle-même redoutable dans les universités américaines, s'est étendue à toute la nation et maintenant au monde occidental. Le rejet de cette évolution par beaucoup d'Américains est une des raisons, d'ailleurs, qui ont conduit à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, signe que cette évolution n'est pas irrémédiable. La France n'est pas épargnée, bien au-delà de ses universités, puisque des politiques français se revendiquent du wokisme. Cette volonté d'effacement de la culture occidentale est un poison redoutable, car cela vise à détruire les valeurs qui la portent en s'appuyant sur le délitement de cette valeur, le manque de repères de la société et le besoin de croire insatisfait. Nous allons marquer une petite pause musicale et puis nous verrons après en quoi le contenu de cette religion est toxique. Nous avons vu ce que recouvre le wokisme, et donc nous allons voir maintenant un aperçu du contenu de cette religion. La pensée éveillée n'est pas une pensée très structurée, et elle se fonde sur des théories fumeuses et variées, puisque chacun peut créer les siennes, mais certaines émergent quand même et sont importantes. La première, c'est la théorie critique de la race, la base même de sa création. Elle compose le volet antiraciste du mouvement woke. En gros, pas d'autre moyen que d'invoquer la notion de race, que l'on croyait d'ailleurs discréditée depuis le nazisme, pour combattre le racisme social, la lutte des races venant se situer ou se superposer à celle de la lutte des classes. La race blanche, donc toute personne de cette race, est indélébilement entachée par le colonialisme. Le fait de ne pas appartenir à la classe des colons des dominants fait de la personne une victime. Et cette approche de victimisation a été élargie à toutes les situations où une personne se sent victime. Cela conduit donc à ce que je nomme donc une victimisation. Je me sens victime, donc mon combat est légitime. Cette vision a depuis été élargie. La société serait constituée de victimes et de bourreaux. Par exemple, dans le domaine de la sexualité, en particulier l'homosexualité, et dans d'autres formes qualifiées de discrimination, masculin et féminin par exemple, même si les féministes se retrouvent de moins en moins dans le combat du gender et dans le combat du wokisme. Cette théorie est donc contraire au fondement même de la foi chrétienne, qui veut que Dieu a donné une même dignité à tous les hommes, qui ont été créés par lui et qui n'a pas réservé la dignité, le salut aux seules victimes. Autre théorie du wokisme, le gender ou la théorie du genre. Son fondement, il n'existerait pas de sexe biologique, on ne naît pas homme ou femme, mais un sexe est assigné à la naissance par les médecins et les autorités. Des scientifiques, ou prétendus tels, donc, s'appuient sur des études bidons, comme des études d'opinion sur le genre, pour affirmer ce que l'immense majorité des scientifiques considèrent comme une contre-vérité, le fait qu'on n'êtrait pas garçon ou fille. Pour eux, il faudrait donc se libérer de cet arbitraire de choix du sexe par un acte d'autodétermination. Le sexe devrait donc être choisi par la personne en fonction de son ressenti. Si les organes donnés par la nature ne correspondent pas à ce ressenti, eh bien il faut les modifier. Cela conduit à changer chirurgicalement des garçons en filles ou des filles en garçons et même des tout jeunes enfants. La haute autorité française de santé envisage d'ailleurs de rembourser ces actes chirurgicaux de changement de genre. On voit que donc même l'administration française est gangrénée par ces théories. Force est pourtant de constater que le refus de la différence entre garçons et filles est contraire à la perception qu'ont la plupart d'entre nous. Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa, d'où dit d'ailleurs la Genèse. Autre théorie, l'intersectionnalité, qui vient du mot intersection, croisement, c'est une approche qui veut faire rencontrer les mouvements qui portent des causes pour plus d'efficacité. Cette intersectionnalité conduit à l'optimisation des luttes par l'alliance dans les combats de mouvements puissants qui disposent de moyens immenses comme les LGBT, le planning familial, les mouvements féministes, même si certains d'entre eux ont pris des distances, des partis politiques, écologiques ou des partis gauches, mais pas seulement. Autre théorie, la théorie de la connaissance. Si le communisme oppose le savoir bourgeois au savoir prolétaire, le wokisme, lui, oppose le savoir de la victime à celui du dominant, le savoir issu de la science qui s'est libéré de la domination des Blancs. Les maths sont considérées comme sexistes, la biologie également, et toutes les sciences, en fin de compte, sont au service du pouvoir blanc. Pour le wokisme, la raison n'est donc pas la voie d'accès à la connaissance. Et en niant le rôle de la raison dans la recherche de la vérité, le wokisme enferme en fait la personne dans une incapacité à prendre du recul sur ses dogmes mortifères. Cela encourage donc le mépris de la raison, le relativisme total et le relativisme anti-scientifique, alors que le catholicisme, lui, prône au contraire la nécessité de concilier foi et raison. On voit donc que ces théories sont dangereuses, et l'aspect le plus perfide, c'est que le wokisme s'appuie sur une cause juste, la défense des victimes de toute discrimination. Elle s'appuie donc, en apparence ou moins, sur une recherche de justice, comme d'ailleurs en son temps le communisme s'appuyait sur la recherche de justice sociale. Mais ce qui était au départ de l'ordre de la charité dans les intentions devient la promotion d'une autre forme de racisme, d'intolérance, de discrimination. Or, créer une nouvelle discrimination n'a jamais été un moyen juste de lutter contre les discriminations. Combattre l'intolérance par l'intolérance est au mieux inefficace, et cela ajoute de la haine à la haine. Cette approche pourrait être prise en compte lorsque sont votées des lois qui prétendent lutter contre l'intolérance par une autre forme d'intolérance qui crée donc des délits d'opinion et qui interdisent même de dire la vérité parfois. On retombe sur une autre question également, s'il y a le camp du bien et le camp du mal, qui définit le bien, qui définit le mal et sur quelle valeur? Si c'est chacun qui le définit, non seulement le relativisme est la règle, mais il ouvre la porte à une forme de totalitarisme de la pensée wokisme correcte, puisque, à défaut de valeurs partagées, ce sont les dominants qui définissent le mal et le bien. Le même schéma sera appliqué aux Indiens, aux homosexuels, aux trans, de manière générale à toutes les minorités que les bien-pensants considèrent comme opprimées. Plusieurs très graves dangers s'ajoutent. On promeut le racisme anti-blanc pour contrer l'autre racisme. Le wokisme mène à une pression sociale intense où ceux qui ne partagent pas les mêmes idées risquent d'être exclus, ostracisés, ruinés. Ce phénomène crée d'ailleurs une atmosphère de peur et de censure qu'on voit dans les universités américaines, où la liberté d'expression est souvent menacée, où le débat public devient de plus en plus restreint, voire impossible. Certains parlent même d'une police de la pensée. Le woke est enfermé dans une catégorie victimaire qui le définit. Or, une personne n'est jamais considérée pour elle-même individuellement, mais seulement pour la communauté à laquelle elle appartient, c'est-à-dire dans son statut de victime, c'est créer un stéréotype de cette victime. Cela conduit à la réduction de l'individualité au prisme de la seule identité, et on enferme une personne dans son identité de victime, ce qui ne règle pas du tout le problème. Cela peut même décourager la personne de chercher des solutions et à se cantonner dans la vengeance comme solution. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles des communautés noires américaines ne se reconnaissent pas du tout dans ce mouvement et le condamnent. En conclusion, si le wokisme avait au départ des apparences du bien, on voit à quel point le mal s'est déguisé pour entraîner la dérive que connaît le monde occidental. On voit encore le malin avancer en se cachant sous des apparences du bien. Sous prétexte de justice, il développe un racisme plus pernicieux, une intolérance totalitaire, et il contribue à la destruction de nos sociétés. Sa toxicité empoisonne notre époque, Et, en tant que chrétiens, nous ne pouvons rester silencieux et regarder ailleurs. Toutefois, on ne va pas perdre l'espérance. On voit poindre un sursaut déjà aux États-Unis, et ce sursaut gagnera tôt ou tard la France au vu des dégâts que fait cette religion. Donc nous savons à quel point la prière, arme la plus efficace que prônent les papes pour nous protéger de l'emprise du mal, est importante, et elle nous permet également de rester dans l'espérance. Christ, par sa mort, a vaincu le wokisme.